carrefour des arts. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Émilie Julia.
Bonjour, nous sommes en compagnie de Yan Engden, l'assistant de Zhao Qi, au sein même de son domicile, du domicile du grand peintre. Et dans ce bureau où vous travaillez, merci beaucoup de nous recevoir, à l'œuvre de Zhao Qi et pour continuer de perpétuer sa mémoire, son souvenir et puis son image qui est récurrente dans le monde des livres et de l'art aujourd'hui. En France et dans le monde, vous êtes formé à l'école du Louvre, vous travaillez avec Zhao Qi depuis 2002. Cette rentrée 2010 est très axée sur Monet, puisque nous avons une exposition au Grand Palais à partir du 22 septembre, et puis une exposition à Marmottan-Monet sur Monet, son musée. Nous souhaitions vous demander, Yan Engden, votre sentiment sur l'œuvre de Zhao Qi et sur Monet. C'est-à-dire, vous connaissez Zhao Qi, comment a-t-il connu Monet tout d'abord?
Alors tout d'abord, Zhao Qi a été formé en Chine, bien évidemment. Il n'est arrivé en France qu'en 1948. Donc il a été formé à l'école des Beaux-Arts de Hangzhou, qui à l'époque était et qu'il est toujours une école très très célèbre en Chine. Il y a été formé de 1935 à 1941. Et dans le cadre de cette formation, il y avait en fait une sorte de double éducation, de double cursus. D'un côté, tout ce qui concerne la tradition chinoise, que ce soit la calligraphie, la peinture chinoise, essentiellement via un apprentissage de la peinture Ming et Qing, donc plutôt une peinture tardive qui perpétuait quand même les traditions et les techniques antérieures, mais aussi la calligraphie, qui est vraiment un point d'ancrage très important en Chine. Et d'un autre côté, un enseignement de la peinture occidentale, et de l'histoire de l'art occidental, que ce soit la perspective, qui est radicalement différente de ce que les Chinois pratiquaient, mais aussi la peinture à l'huile et l'étude d'une peinture plutôt classique, plutôt académique, étant donné qu'elle était faite par des peintres occidentaux qui avaient fait leurs études à l'École des Beaux-Arts de Paris ou de Bruxelles. Donc, que ce soit de la manière chinoise ou de la manière occidentale, une étude plutôt quand même assez scolaire et assez académique, mais ce qui n'excluait pas au niveau occidental, une étude notamment du fauvisme, et bien évidemment de l'impressionnisme. Donc Monet, bien évidemment, a été mentionné au cours de l'enseignement de l'école des Beaux-Arts de Hangzhou, mais c'était aussi un souhait de la part de Zhao Qi, justement, d'aller au-delà de ce qui lui était enseigné pour réussir à trouver des choses beaucoup plus modernes et des choses beaucoup moins académiques. Donc dès le départ, en fait, il a essayé d'acquérir que ce soit des livres, des revues, des périodiques qui traitaient des peinture à la fois actuelle du Paris des années 40, mais aussi des choses un petit peu plus récentes que la peinture académique 19e, donc que ce soit Renoir, que ce soit Monet, que ce soit Modigliani, et vraiment un intérêt pour l'impressionnisme dès le départ. Donc quand il est arrivé à Paris en 1948, son premier geste a été d'aller au musée du Louvre, et par la suite de visiter tous les musées de Paris, et notamment le musée de l'Orangerie, où il a pu voir le grand cycle des Nymphéas, et à partir de là, il a vraiment mis en place des visites assez systématiques dans les musées français pour enfin voir réellement les peintures qu'il n'avait vues au préalable que par des reproductions.
D'après vous, qu'est-ce qu'il fascinait chez Monet? Est-ce que Monet le fascinait plus que les autres peintres impressionnistes? Et si oui, pourquoi? Est-ce qu'il a un véritable coup de cœur pour lui?
Il a, je pense, un véritable coup de cœur, peut-être plus pour le mouvement impressionniste. Non, je pense qu'il a quand même un véritable coup de cœur pour Monet, étant donné que chez lui, ce qui le fascine, mais c'est aussi ce qu'on peut retrouver chez d'autres peintres impressionnistes, c'est l'étude de la lumière, l'étude de l'eau, le traitement des passages atmosphériques, des éléments changeants. Notamment, je pense que, par exemple, la série des cathédrales de Monet à différentes heures du jour, avec différents éclairages, ont forcément dû lui plaire, car c'est véritablement des choses qu'il essayait lui aussi de saisir, des choses très impalpables, des choses vraiment fugaces, et ces variations, qu'elles soient climatiques ou de l'ordre de la lumière, ainsi que le jeu de l'eau, des reflets, de la décomposition, des couleurs, des formes par l'eau, c'est quelque chose qu'il essayait lui-même non pas de reproduire, mais dont il essayait de retrouver un peu l'essence. On dit souvent au sujet de Vent, un tableau de 1954 qui est conservé au Musée national d'art moderne à Paris, que c'est pour Zhao Qi, véritablement son premier tableau abstrait, c'est le premier tableau qui ne représente plus un sujet réellement figuratif et précis, mais il en parle notamment dans son autoportrait, Et il indique que c'était déjà ce qu'il essayait de faire à l'époque quand il était sur les bords du lac de l'Ouest à Ranzhou, à savoir qu'il était fasciné par la multiplicité de l'espace à la surface de l'eau, la légèreté de la lumière ou son épaisseur entre le lac et le ciel. Ce que je cherchais à voir, c'était l'espace, ses étirements et ses contorsions, et l'infinie complexité d'un bleu dans le minuscule reflet d'une feuille sur l'eau. Donc c'est véritablement ce que lui essayait de faire, et je pense que dans la peinture de Monet, il a bien évidemment retrouvé des ponts et des choses qui l'ont plu et qui lui ont permis
d'avancer dans son art. Et on peut dire qu'il s'est inspiré de lui, en d'autres termes.
Il s'est inspiré de lui, mais il n'en a pas fait des copies au sens premier du terme. À la différence, par exemple, de Cézanne, dont il a fait des copies quand il était jeune, quand il était encore en Chine, et dont il essayait d'avoir la manière. Monet, je pense que c'est une influence et un héritage qui est plus, beaucoup plus mûr, qui est plus tardif, et qui est quelque chose, en fait, qui est passé dans sa propre peinture. C'est quelque chose qu'il a digéré, quelque chose qu'il a réussi à intégrer et par la suite interpréter. Donc il n'a pas, à proprement parler, cité Monet. C'est une influence qui est beaucoup plus souple, qui est beaucoup plus diffuse au sein de son œuvre.
Est-ce que Monet est un maître pour Zhao qui représente vraiment le paroxysme de la peinture, de la beauté en peinture? Quels sont les maîtres de Zhao?
Alors les maîtres de Zhao, bien évidemment certains grands peintres chinois. Pour ce qui est du versant occidental, dès le départ, Cézanne, Matisse, Picasso, Monet bien évidemment. Des peintres pour lesquels il a dès le départ indiqué que c'était pour lui des très très grands maîtres. À titre d'exemple, il a fait plusieurs peintures hommages à des peintres et à d'autres personnalités. En ce qui concerne les peintres, il en a fait à Matisse, à Cézanne et à Monet. Donc c'est véritablement pour lui les trois peintres qui sont très très importants. Et à chaque fois, il a essayé justement de réinterpréter des éléments un peu phares de ces trois peintres. Pour Matisse, par exemple, il a réinterprété et essayé de donner une dimension nouvelle à la porte-fenêtre de Collioure. Pour Cézanne, il s'est inspiré de la Sainte Victoire, donc un thème vraiment très très cher et au cœur de la peinture de Cézanne. En ce qui concerne Monet, il s'est, je pense en tout cas, fortement inspiré de la série des Nymphéas ainsi que des Falaises d'Étretat, justement pour la recherche du traitement atmosphérique.
Alors cette question nous amène à parler d'une œuvre qu'il a réalisée et qui a pour titre « Hommage à Claude Monet » que nous avons sous les yeux puisque vous nous avez ouvert le catalogue de Zhao Wuqi, et donc nous avons sous les yeux cette œuvre. Est-ce que vous pourriez nous en dire quelques mots? Peut-être quel serait le point de départ de ce travail? Vous parliez des Nymphéas. Est-ce que ce serait seulement les Nymphéas?
Alors c'est toujours un peu délicat d'interpréter les tableaux de Zhao Wuqi, car lui-même ne l'a jamais fait. Oui, il ne souhaite pas parler de ses peintures. De la même manière, depuis qu'il est devenu un peintre abstrait, il ne donne plus de titre ou très rarement à ses peintures, en dehors des hommages qui du coup ont un titre très indicatif. Mais la plupart du temps, il utilise en fait la date à laquelle il a terminé la peinture, donc jour, mois, année, pour nommer ses peintures, dans le but évident justement de ne pas influencer et de ne pas donner de clé de lecture à ses tableaux. Donc on a très souvent parlé de paysages au propos de Zhao Wuqi ou de paysagisme abstrait. Lui-même était très réticent à l'utilisation du terme paysage. C'est quelque chose qu'il n'emploie pas pour sa peinture. Ce n'est pas son but. Il n'a pas pour but de représenter quelque chose. Il essaye juste de transposer des sentiments. Et après, il laisse les spectateurs libres de trouver des éléments dans ses peintures. Alors bien évidemment, là, si en bonne occidentale, on essaye justement de retrouver des éléments qui nous rappellent Monet. Bien évidemment, il peint pratiquement une sorte de pont-falaise. Il arrive à synthétiser les ponts que Monet peignait, notamment dans les séries des Nymphéas et les falaises d'Étretat, avec une masse très très sombre, un milieu autour très aquatique avec du bleu. Mais après, c'est véritablement une sorte de suspension de couleurs et un traitement pour le coup véritablement très atmosphérique. Enfin, j'y reviens encore, mais c'est véritablement ce qu'il, a priori, ce qu'il cherchait à faire.
Qu'est-ce qui le fascine chez Monet, selon vous?
Je pense que c'est le traitement de la couleur, le traitement de la lumière, la décomposition de la lumière, que ce soit par la touche ou par le jeu de l'eau et des éléments aquatiques. Je pense que c'est vraiment quelque chose de très poétique qui le touche énormément.
Vous pensez que Monet a eu une influence radicale sur l'œuvre de Zhao Wuqi?
Je dirais pas une influence radicale. C'est beaucoup plus de l'ordre de l'intégration, beaucoup plus quelque chose qui est plus en douceur, ça n'a pas amené une rupture dans son œuvre. C'est plutôt des choses qui ressurgissent à certains moments, et c'est plus une communauté de pensée et presque un modèle à suivre qui ont fait De Monet, une figure véritablement importante pour Zaouki, mais pour d'autres peintres abstraits, pour la majeure partie de la génération de Zaouki, que ce soit Riopelle, John Mitchell, beaucoup d'Américains qui sont venus à Paris, qui sont venus voir les Nymphéas et qui ont vu chez Monet justement, notamment dans les derniers tableaux, une liberté de ton qui, pour eux, préfigurait déjà l'abstraction. Alors je pense pas que Zaouki l'ait regardé complètement comme le père de l'abstraction. À mon avis, il y cherchait sans doute quelque chose d'autre. Beaucoup plus au niveau du ressenti, plus que la querelle figuration-abstraction, qui pour le coup, lui, ne l'intéressait pas.
Au Grand Palais, à partir du 22 septembre, nous trouverons une rétrospective des œuvres provenant du monde entier, des œuvres assez rares d'ailleurs. Au Grand Palais, est-ce que nous n'avions pas revu de rétrospective depuis 1980, à en croire Sylvie Patin? En tout cas, au Grand Palais, est-ce que vous pensez que Zaouki ira jeter un œil, ira faire un petit tour?
Oui, bien sûr. Je pense que ça va être prévu. Ça sera sans doute dans des créneaux un petit peu aménagés pour qu'il ne soit pas trop heurté à la foule, parce qu'il est quand même maintenant assez âgé. Mais bien évidemment, il va aller visiter l'exposition du Grand Palais ainsi que l'exposition du musée Marmottan.
Pourriez-vous nous dire un mot sur la relation entre la France et Zaouki? Il a élu domicile en France. Est-ce que le pays a joué un rôle décisif dans sa carrière?
Bien sûr. C'est une relation très très forte. Quand Zaouki a fini ses études à Rangeau, il devient un professeur à Rangeau et rencontre, vers les années 45-46, Vadim Eliseev, qui était alors conservateur au musée Sarnowski à Paris et qui était détaché auprès de l'ambassade de France à Chongqing, en Chine. Et Vadim Eliseev se prend d'amitié pour lui, amitié réciproque, et en fait, lui suggère de venir en France. Et Zaouki, en fait, à partir de ce moment-là, décide véritablement de tout faire pour aller en France, notamment car pour lui, c'est véritablement la patrie des arts. Il est resté avec cette idée-là de France, terre des artistes. Donc dès le départ, quand il a songé à aller ailleurs pour parfaire son art, il n'a pas choisi les États-Unis, il n'a pas choisi un autre pays. Dès le départ, ça a été la France, justement, car pour lui, l'art se faisait à cette époque à Paris, et pour toute la tradition accumulée en France. Il lui a fallu près d'un an et demi pour obtenir les visas, pour avoir le droit de partir de Chine en France. Donc il a commencé à faire ses démarches en 47, il obtient les visas en 48. Donc en 48, il arrive à Paris avec le but de rester 2 années en France et ensuite de repartir en Chine. Il ne souhaitait à l'époque que parfaire son art, et l'arrivée de Mao au pouvoir en 49 l'a décidé à rester en France, pour pouvoir continuer à pratiquer son art de la manière dont il le souhaitait. Donc la France, bien évidemment, a été un tournant absolument radical dans sa peinture, car si on regarde toute la génération de Zaouki qui a été formée en même temps que lui à Rangeau et qui n'a pas eu la possibilité ou la volonté de quitter la Chine, malheureusement, ont, pendant une vingtaine d'années, un trou énorme dans leur production de peintres, car ils ont été confrontés au rouleau compresseur de Mao et du communisme. Et oui, l'art de Zaouki n'existerait pas s'il n'était pas venu en France. De la même manière, après, très tôt, dès les années 55-60, Zaouki est exposé au sein des expositions universelles dans le pavillon français, alors qu'il était encore de nationalité chinoise. Il n'obtient la naturalisation qu'en 1964 grâce à André Malraux. Et c'est véritablement une démarche qui est très importante pour lui que de devenir français. Et d'ailleurs, à ce fait, il offre des tableaux au Musée national d'art moderne, justement en reconnaissance de la dette qu'il a envers la France, envers Malraux, qui a accepté de le naturaliser. C'est quelque chose pour lui de véritablement très, très important. Et il se considère, je pense, autant chinois que français, et a vraiment intégré les traditions européennes et la tradition française avec une finesse, avec une élégance véritablement assez, assez bluffante.
Mais la Chine, est-ce qu'il y retourne de temps en temps?
Bien sûr, il y est retourné dès les années 70, quand la Chine a commencé à s'ouvrir un petit peu, notamment pour revoir sa famille, parce qu'il est resté pratiquement 25 ans sans la revoir. Et il y retournait assez fréquemment dans les années 70-80, et beaucoup dans les années 90, quand il y a eu quand même beaucoup de rétrospectives organisées en Chine. Et il y retourne généralement, en tout cas tous les 2 ans, pour voir sa famille.
Quelle place a-t-il en Chine en termes d'art, de carrière artistique? Est-ce qu'il est aussi connu en Chine qu'en France?
C'est toujours assez difficile à établir. Je pense qu'il est, de la même manière qu'en France, il est, je pense, très connu, notamment des milieux intellectuels, mais aussi, et c'est ce que l'exposition de la Galerie nationale du Jeu de Paume m'a montré aussi, d'un grand public pas forcément habitué aux expositions. En Chine, il est très très connu au niveau institutionnel, au niveau de beaucoup d'amateurs, Après, on a du mal à maîtriser véritablement la diffusion de l'information dans tous les coins de la Chine. Alors oui, dans les villes, il est forcément très connu. Les expositions, notamment en 98, ont pratiquement été ouvertes, pas 24 heures sur 24, mais sur des durées très longues et ont drainé énormément de personnes. Et c'est surtout un des rares Chinois de son époque, de sa génération, à avoir eu une audience à l'époque de Mao, aussi bien en Europe qu'aux États-Unis, donc quelque chose qui dépassait la Chine. Ils n'ont pas été beaucoup à pouvoir prétendre à cette reconnaissance. Et par ce biais-là, je pense qu'il fait vraiment figure de précurseur, notamment pour les peintres chinois actuels qui ont les faveurs et les codes des marchés et des collectionneurs. Après, je pense que c'est aussi une démarche différente des pratiques actuelles. Et je pense que pour ça, il est relativement reconnu comme étant justement une sorte de pont entre la grande tradition chinoise telle qu'elle s'est perpétuée pendant des siècles en Chine et justement les jeunes peintres actuels du marché. Il a un peu rempli le fossé entre les deux.
Nous évoquions Monet, les peintres impressionnistes qui ont contribué à son inspiration. Est-ce que vous pourriez peut-être nous aiguiller sur le moteur, d'autres moteurs qui ont guidé son art, qui ont inspiré son parcours ? Peut-être un moteur de vie, les voyages.
C'est assez difficile parce qu'en fait, oui, dans les années 50, il a énormément voyagé en Europe et c'est de ça dont il s'est nourri, par exemple de la perspective italienne, des paysages de montagne, notamment en Italie, qui lui rappelait par certains côtés là, les montagnes chinoises. Il a très tôt intégré l'art de Cézanne. Mais par la suite, justement, à la très grande différence des peintres impressionnistes, il n'y a pas de peinture sur le motif. Bien que les impressionnistes ne l'aient pas forcément toujours pratiqué ou aient pratiqué une peinture sur le motif dans leur atelier, c'est pas forcément toujours en plein air, mais Zhaouqi, lui, a toujours peint à l'intérieur de son atelier dans une boîte qui était fermée, qui était volontairement non ouverte sur l'extérieur, qui avait très peu de fenêtres. C'est vraiment une création dans son monde et dans son atelier. Donc c'est assez difficile de saisir des choses qui vraiment ont pu avoir une telle influence. On peut peut-être plutôt citer des éléments qui sont aussi impalpables que de la musique ou des souvenirs qui sont réinterprétés et qui sont remis sur la toile. Mais il n'y a jamais eu de travail avec une photo ou d'après un paysage ou des choses qui sont vraiment sur le motif.
Est-ce qu'il continue à peindre ?
Oui, là, il ne fait plus de peinture à l'huile parce qu'il a décidé lui-même d'arrêter de peindre parce que ça devenait physiquement beaucoup trop contraignant étant donné qu'il souhaitait continuer à faire des grands formats et que son âge, malheureusement, ne lui permettait plus de faire de grands formats. Mais il continue à faire des œuvres sur papier, essentiellement des aquarelles, d'une manière assez libre et, étrangement, justement, en s'inspirant de plus en plus de la nature. Alors, ça n'est pas un travail complètement sur le motif, mais c'est vraiment, il se met vraiment en confrontation avec la nature. La nature a toujours été au cœur de son travail, c'est vraiment une inspiration de tous les instants. Mais là, il est vrai qu'il se place de plus en plus face à elle, comme c'était vraiment l'élément qui pour lui était déterminant.
Est-ce que la peinture est seul maître sur terre ou est-ce qu'il aime aussi la peinture sur porcelaine et sur d'autres objets ? C'est-à-dire développer son art un petit peu d'une façon plus large ?
Pour lui, je pense que la vraie pratique, et avant tout autre, c'est la pratique de la peinture sur toile, sur chevalet, qui pour lui est vraiment l'essence de ce qu'il a essayé de dire et de son travail. Très tôt, dès les années 50, il a fait des incursions dans d'autres domaines qui lui ont permis, qui lui ont servi par moments de forme de récréation. Parfois quand il était bloqué sur des peintures, des choses un petit peu pour lui plus annexes, qui étaient aussi une forme d'amusement et de confrontation à autre chose. Ça n'est pas un peintre des trois dimensions. Le volume l'intéresse assez peu. Il a fait quand même de nombreuses céramiques, mais qui étaient plus pour lui de l'ordre du jeu intellectuel et de se confronter à la troisième dimension. Mais pour lui, c'est essentiellement la peinture, les deux dimensions, et peut-être à armes égales avec la peinture à l'huile, la pratique de l'encre de Chine.
Est-ce qu'il la pratique beaucoup ?
Il l'a énormément pratiqué. Il l'a en partie arrêté quand il est arrivé à Paris, justement pour ne pas être taxé de peintre chinois et ne pas produire ce que lui-même appelait ou des choses qu'on aurait pu qualifier de chinoiserie. Et il a pratiquement arrêté l'encre de Chine en 1948. Il l'en faisait encore un petit peu dans son atelier, mais de manière un peu personnelle, un peu secrète. Et il se remet véritablement à l'encre de Chine sur les conseils d'Henri Michaud, au tout début des années 70. Et à partir de là, a une pratique quotidienne très importante. Une très grosse part de son œuvre a été faite à l'encre de Chine. Et à partir des années 70-80, l'encre de Chine inverse même un processus dans sa peinture, étant donné qu'il a choisi et essaye de retrouver les mêmes sensations qu'il a avec l'encre de Chine dans la peinture. Donc il dilue énormément ses couleurs, il essaye d'avoir des lavis, des jus qui sont très très fins, des glacis qui sont très précieux. et il essaye de retrouver vraiment la même sensation qu'avec l'eau et l'encre de Chine.
Alors pour terminer, est-ce que vous pourriez nous donner le titre d'un livre à lire ou un catalogue qui vous apparaît le plus intéressant pour découvrir l'œuvre de Zhao Wuqi ?
C'est un peu prêché pour notre paroisse, mais bien évidemment, le dernier livre qu'on a fait sur Zhao Wuqi, qui est le livre de Dominique de Villepin, qui est paru aux éditions Flammarion en 2009, donc avec une préface de Dominique de Villepin, un choix iconographique qui est très vaste. On a pratiquement 300 peintures et encres de Chine qui sont reproduites, de 1935 jusqu'en 2008, et qui montre justement toutes les facettes de son travail, avec aussi un corpus d'analyse critique en fin d'ouvrage, une biographie remise à jour, une liste des expositions principales, des principales collections publiques, sans doute un des outils les plus complets et les plus à jour sur Zhao Wuqi.
Et pour admirer Zhao Wuqi en France, donc vous avez cité le Musée national d'art moderne.
Oui.
Est-ce qu'on trouve d'autres endroits où on peut admirer des œuvres de Zhao Wuqi ?
Oui, si tant est qu'elles ne soient pas en réserve de par leur format. Donc effectivement, Beaubourg, qui en possède quand même pas loin d'une dizaine.
Que l'on peut admirer aux collections art moderne ?
Oui, là, Van est présenté ces temps-ci dans le parcours historique, ainsi que des encres de Chine.
Mm-hmm.
Beaucoup de ces peintures sont utilisées aussi pour décorer les palais nationaux, donc ce n'est pas forcément les endroits les plus simples à visiter. Mais vous en avez aussi au musée d'Evreux, au musée des Beaux-Arts d'Orléans, qui possède une très très belle peinture des années 70, au musée Ingres de Montauban, au musée Saint-Roch d'Issoudun. Il y en a un petit peu partout en France. Après, du fait des jeux, des accrochages et surtout des grands formats qui sont possédés, elles ne sont pas malheureusement toujours visibles.
Merci beaucoup Yann Engden de nous avoir reçus. Je rappelle que vous travaillez avec Zhao Wuqi depuis 2002 et que vous avez participé à beaucoup de catalogues illustrant l'œuvre du peintre d'origine chinoise et bien sûr naturalisé par André Malraux en France. Merci beaucoup.
Je vous en prie, merci.